Nous avons trois lectures. Commençons par Ésaïe 55, versets 10 à 11, une parole donnée aux Juifs, complètement découragés quand ils étaient en exil à Babylone. Les prophètes leur avaient bien annoncé leur retour sur la terre d'Israël, mais comment y croire, ça paraissait tellement impossible. Alors voilà ce que dit le prophète.
Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission.
La suite, alors, nous avons aussi un texte dans l'Épître aux Romains.
Romains 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre cœur. De notre corps. Pardon. De notre corps.
Matthieu 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a, recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été semé sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a été semé dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole. Mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole. Il ne donne pas de fruit. Celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et comprend, et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un.
À l'intérieur de cette parabole, nous avons une explication pourquoi Jésus parle en parabole. Ce n'est pas si simple à comprendre, et plus on cherche à comprendre, plus le mystère devient épais. Les disciples, donc, au milieu de cette parabole, on nous dit que les disciples demandent à Jésus « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et pour simplifier, je veux dire, la réponse de Jésus, c'est « Pour qu'ils ne comprennent pas. » Et Jésus s'appuie sur un texte, qui est la fin du chapitre 6 d'Ésaïe, où se trouvent en effet ces versets étonnants. « Écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Engourdis le cœur de ce peuple, apesantis ses oreilles, colle-lui les yeux. » Que de ses yeux il ne voit pas, n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. Donc Jésus ouvre la bouche pour ne pas être entendu. Déjà ça, ce n'est pas simple à comprendre. Maintenant, si on lit au verset 35 du même chapitre, on trouve l'affirmation inverse. Jésus dit « J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Donc d'après ce verset, qui se trouve dans le même chapitre, Jésus ouvre la bouche pour révéler des choses cachées. Et de fait, on constate qu'il a bien raison aussi de parler comme ça, parce qu'il y a des gens qui entendent, et il y en a qui n'entendent pas. Et qui sont ceux qui entendent? Bien, Jésus mentionne ses disciples, en tout cas. Il dit « Heureux vos yeux, parce qu'ils voient. Heureux, heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. C'est au verset 16. Donc les privilégiés, ce sont les disciples, et les autres, eux, ils entendent, mais ils entendent sans entendre, ils voient sans voir. Alors pourquoi les disciples, eux, entendent et voient, et les autres non? Eh bien, ce texte ne donne pas la réponse. Et c'est ainsi, c'est tout. C'est la réalité. Alors, plus tard, dans les épîtres, les apôtres parlent d'élection, de prédestination. Les théologiens connaissent bien ce thème, mais on n'éclaircit pas le mystère pour autant. Et parce que ça reste un mystère, l'élection. Il ne faut pas que ce mystère soit éclairci, justement. Sinon, on deviendrait Dieu. Pourquoi, alors, nous sommes-nous croyants? À vrai dire, nous n'en savons rien. J'ai déjà prêché sur ce verset de Jean 3, verset 8, où Jésus dit, c'est très connu ce verset, « L'Esprit souffle où il veut ». Souvent, on le cite sans mentionner le contexte, parce que dans le même verset, Jésus dit « Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit ». Ça veut dire que celui qui est né de l'Esprit ne sait même pas comment ça s'est produit. Après, on donne des explications. Oui, je me suis converti, ceci, cela, mes parents m'ont enseigné. Mais bon, on a beau avoir été enseigné au catéchisme, tout le monde ne croit pas au catéchisme une fois adulte. On a beau s'être converti, il y en a qui retournent en arrière. Donc notre existence de croyant, elle est entièrement tirée de l'Esprit et nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Et nous ne pouvons ni l'expliquer à nous-mêmes, ni l'expliquer aux autres. Alors que devons-nous faire? Eh bien, nous indiquons tout simplement Jésus-Christ, crucifié, vivant. Et c'est précisément de Jésus-Christ, crucifié, vivant, qu'il est question sans cesse dans les paraboles. Ce n'est pas un enseignement à comprendre avec l'intelligence. Jésus dit dans cette parabole que le règne de Dieu vient, et qu'il vient dans énormément d'échecs. Sur 6 versets dans cette parabole du semeur sorti pour semer, 4 parlent d'échecs. Donc la majorité des versets nous parlent de l'échec de cette semence. Bon, ceux qui sont jardiniers comprennent, hein. Moi, j'ai semé tant et tant de persil, je n'ai jamais sorti. Il y en a qui poussent dans mon escalier en béton et que je n'ai pas semé. Lui, il pousse là. Alors, c'est inexplicable. Même la nature, on ne peut pas expliquer tout. Mais, encore moins dans le royaume de Dieu, nous pouvons expliquer les choses. Donc, beaucoup, beaucoup d'échecs pour le royaume de Dieu. Je pense à Henri qui nous a lu l'Évangile, qui distribue des Nouveaux Testaments par centaines avec ses collègues de Gédéon. Hein? Mais surtout ces Nouveaux Testaments qui sont distribués, combien produisent un fruit? Est-ce que c'est parce que la majorité ne servent à rien, ne sont jamais lus, qu'il faut cesser? C'est bien la réalité que Jésus a décrite, que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'échecs. Alors, Jésus nous a dit à l'avance qu'il y a de l'échec. Déjà, nous pouvons nous appuyer là-dessus pour ne pas perdre la foi. Il y a beaucoup d'échecs. C'est pas étonnant, Jésus l'a annoncé à l'avance. Maintenant, examinons de quoi il parle. Il dit En relisant le texte ce matin, je me suis arrêté au premier mot. Je n'avais pas vraiment vu l'importance du premier mot. Il dit « Voici, le semeur est sorti pour semer. » Ce « voici », c'est fort. Il dit pas, il commence pas l'enseignement en disant « Le semeur est sorti pour semer. » Il dit « Voici !» Et quand la Bible emploie ce mot, le Nouveau Testament emploie ce mot en grec, c'est « idou »,« voyez ». D'ailleurs, je crois que c'est la même chose en français. « Voici », ça doit être une contraction de « voir ici ». Donc, quelque chose s'est produit. Nous trouvons par exemple dans Matthieu ce mot quand pour la naissance de Jésus à Joseph, il est annoncé « Voici la Vierge est enceinte ». C'est fait, l'événement a eu lieu, ce « voici » signale un événement. Ce n'est pas juste un enseignement, quelque chose est sous nos yeux, quelque chose a surgi, quelque chose a été créé. C'est un événement qu'on ne peut pas avoir assez de mots pour le décrire. Le semeur est sorti. Le semeur, c'est Jésus. Et il est sorti d'où? Juste le verset précédent, on nous dit qu'il est sorti de la maison à Capernaum, à Capernaum. Et je pense que ce mot, il est sorti, renvoie à ce qu'il nous dit Jésus dans l'évangile de Jean sans cesse. Vous ne savez pas d'où je viens. C'est un mystère là, mais qui est sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas. Et pourtant il est là devant nos yeux. Devant les yeux des contemporains de Jésus, il y avait celui, le semeur qui est sorti de Dieu. Il est sorti de Dieu pour semer. C'est le mystère de la personne de Jésus qu'ils ont sous les yeux. Ils sont passés à côté. Et qu'est-ce que c'est la semence qu'il met en terre? Ben, rappelons-nous quand même. Jésus a été enterré. Ça a été fort, ce vendredi saint que nous avons célébré cette année. Moi, j'ai été, comme pour la première fois, mis devant le fait que Jésus est enterré. Vraiment, bon, je le savais, mais Jésus a été enterré. Il a été mis dans la terre. 3 jours, 3 nuits. C'est lui la semence, c'est lui le semeur. Et ce qui sème, ce n'est rien d'autre que sa vie à lui, sa chair. J'étais content qu'on soit attentif juste à la fin du passage de l'Épître aux Romains que Daniel nous a lu. Nous attendons la rédemption de notre corps. L'important, c'est que Jésus était dans la chair. La parole de Dieu est sortie de Dieu, devenue être humain, chair. Et nous, pareillement, nous attendons la délivrance de notre chair, de notre corps. Nous n'avons pas une espérance seulement pour l'esprit, pour notre esprit. Nous avons une espérance pour notre corps qui sera ressuscité. Voilà ce que les gens voyaient sans voir. Mais les apôtres, eux, sont dits heureux. Vous savez que là, Matthieu, il emploie ce mot heureux pour le premier enseignement de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne, heureux. Mais avec des promesses. Heureux parce que, heureux. Mais ici, c'est heureux parce que vous avez déjà tout devant vos yeux. Vous avez le semeur qui est sorti et vous avez la semence. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Messie. Comme c'est dit dans la parabole qu'il vient de lire, dont l'autorité ne résiste pas à l'argent. Il a dit que l'argent peut étouffer la semence, la richesse, les soucis de ce monde peuvent étouffer la semence. Eh bien, Jésus a été étouffé par l'argent, puisque Judas, le trésorier du groupe, on nous dit, il volait l'argent du groupe et puis il livrera son maître pour de l'argent. Que voyons-nous encore? Un Messie dont l'autorité n'épargne pas les persécutions ni les tribulations à ceux qui lui appartiennent. Voilà ce que je dis, Jésus, dans la parabole. Il y en a qui reçoivent la parole, hop, ils sont tout joyeux. C'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Et tout d'un coup, il y a une persécution. Tout d'un coup, on est méprisé et traité comme des moins que rien. Oh ben non, je ne veux pas de ce Messie-là, qui me laisse comme ça, dans la persécution. Mais Jésus l'a dit à l'avance. Il l'a dit à l'avance. Bon, ils ont de la joie au début, et puis quand il y a une persécution, une épreuve, à cause de la parole, justement, ils laissent tout tomber. Ils sont scandalisés, c'est le mot grec. Oui, Jésus a beaucoup d'autorité, mais pas pour nous épargner les persécutions. Le Messie, donc, c'est le semeur sorti pour semer. C'est la semence aussi. Et il faut que vraiment nos yeux reçoivent la vision que nous donne le Père. Que dans ce Fils qui apparemment manque d'autorité, il y a la plus grande autorité du monde, celle de Dieu lui-même. Alors, pourquoi Jésus se manifeste comme ça, apparemment sans autorité, et lui-même victime des richesses, victime des persécutions, victime du malin lui-même? Il se livre entre les mains de celui en qui Satan est entré, il se met dans les mains de Judas, se laisse même embrasser par lui. Il est vraiment cette semence qui paraît faible, sans puissance, sans autorité. Mais la foi nous dit, il y a là la vraie, la grande autorité de Dieu. Alors, je vais chercher une réponse dans le texte sur lequel j'ai prêché dimanche dernier, dans Jean 10. Vous savez, là où Jésus emploie la parabole de la porte de la bergerie et du berger, le beau. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, c'est la seule parabole qu'il raconte. La porte de la bergerie, le berger. Et là encore, justement, on nous dit au verset 6, dans Jean 10, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors il a continué, il a encore parlé du berger, et il dit que, et là il oriente la compréhension vers le fait qu'il y a essentiel uniquement de l'amour dans le berger. Parce que l'ouvrier salarié agricole peut faire le travail d'un berger. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où il faut un jour mettre sa vie en danger pour le troupeau, lorsqu'il y a un prédateur qui arrive. Et dit ça, l'ouvrier agricole salarié, il ne s'investit pas du tout là-dedans, quand il y a un danger. Jésus, dit le berger, le beau, lui, il dépose son âme. Quand il y a ce danger. Et c'est ça que nous devons voir dans cette faiblesse de la semence étouffée par la richesse, enlevée par Satan, par le démon, ou elle est enlevée, c'est, il y a le terrain, le rocailleux, où il y a ou persécuté, méprisé par les hommes. Eh bien, Jésus dépose sa vie là. Et après, il y a la question, au verset 24 dans Jean 10, les gens lui disent, c'est la question que je posais tout à l'instant, mais pourquoi cette faiblesse, pourquoi ce n'est pas si visible, l'autorité de Jésus? C'est ce que demandent les gens à Jésus après avoir écouté la parabole du berger au verset 24. Jusqu'à quand enlèveras-tu notre âme? Si toi tu es le Christ, dis-le nous ouvertement. Ils auraient voulu eux aussi que ce soit clair et net, qu'il y ait une autorité, qu'on soit obligé d'y croire à Jésus. Qu'on puisse plus dire « Ah si, moi j'y crois », puis en entendre encore des gens qui disent « Non, moi j'y crois pas ». Ben, ça restera comme ça. Et nous entendons dans cette question « Jusqu'à quand enlèveras-tu notre âme ?» Parce qu'il y avait une attente et Jésus ne répond pas à cette attente comme eux, ils le veulent. Mais il a répondu. Voilà ce qu'il dit. Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas et vous n'êtes pas de mes brebis. Mais il dit quand même quelque chose de plus. Il dit les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Donc Dieu donne quand même des œuvres. Dieu donne des signes. Il donne des miracles. Mais jamais ces choses ne sont incontestables. Pour nous, ça suffit. Mais parce que Dieu, pourquoi Dieu ne donne pas des miracles que tout le monde soit obligé d'y croire? Parce qu'il laisse cet espace où on peut entrer dans son amour et aimer à notre tour ce Dieu qui nous a aimés. Dans une faiblesse, dans un échec, dans une humiliation qui font que la plupart des gens ne croient pas en Jésus comme étant sorti de Dieu. Mais nous, nous y croyons parce que c'est l'amour, par amour qu'il a déposé son âme. Et ça, ça peut effectivement, les gens ne croyaient pas si bien dire, ils disaient, pourquoi nous enlèves-tu notre âme? Eh bien oui, l'amour de Dieu peut enlever notre âme, peut l'emporter. Dieu peut nous ravir le cœur, mais il ne le force pas. Voyez la différence. Pour qu'on puisse répondre par amour, à l'amour de Dieu, il n'y aura pas il n'y aura pas un enseignement que tout le monde doit croire de force, contraint et forcé, car ce ne serait plus la possibilité pour l'homme d'aimer Dieu. Mais quand on comprend que tout est fait par amour de la part de notre Père, alors on peut répondre, on peut croire. Encore une dernière chose. Dans l'explication que Jésus donne à ses disciples, il dit que la semence, c'est nous. Ça paraît maintenant bizarre, puisque je vous ai dit au début, la semence, c'est Jésus. Mais regardez au verset 20, 22, 23. « Celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, celui qui a été semé dans les épines, celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est bien nous la semence. C'est aussi Jésus. Cela nous montre, cette explication de Jésus nous montre que par la parole de Dieu, Jésus s'identifie à nous, que sa vie est en nous. Et maintenant, nous pouvons accomplir le commandement que Dieu a donné à Israël, que Israël, les Juifs aujourd'hui encore disent tous les jours, matin et soir. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa richesse. Amen. Merci.